Chers frères et sœurs, le contexte liturgique nous aide toujours à lire l'Évangile ou la parole de Dieu sous un angle un petit peu particulier. Vous savez qu'il y a la fête de la Transfiguration pendant l'été, le 6 août. Alors, lors de cette fête de la Transfiguration, on contemple Jésus transfiguré d'une manière un peu plus désintéressée, si je puis dire. C'est une fête du Seigneur, hein, comme Noël, comme Pâques, comme la Croix Glorieuse, comme bien d'autres fêtes du Seigneur. Donc, on contemple Jésus transfiguré. Dans chaque année, le deuxième dimanche du carême, on lit aussi l'évangile de la Transfiguration, mais d'une manière, si je puis dire, un peu moins désintéressée, parce que il nous est donné le premier dimanche, c'est toujours les tentations, et le deuxième dimanche, la Transfiguration. L'évangile, cet évangile nous est donné pour notre cheminement vers Pâques, pour notre cheminement dans le cadre du combat spirituel, un mot plus ou moins agréable, mais le combat spirituel du carême. Voilà. Alors c'est un peu dans cette perspective qu'avec vous, je vais essayer de lire cet évangile de la Transfiguration. Je vais retenir trois éléments, selon mon habitude. Donc, un premier élément, c'est que Jésus les emmène à l'écart sur une haute montagne. Un deuxième élément, c'est qu'ils voient, hein, avec leurs yeux, ils voient Jésus transfiguré. Et le troisième élément, c'est qu'ils écoutent, ils entendent cette parole qui leur dit d'écouter. Donc, le premier élément, Jésus les emmène à l'écart et il les emmène sur une haute montagne. Alors, ils étaient déjà avec Jésus, pas de problème. Mais là, c'est important d'aller à l'écart d'une forme d'agitation, de tumulte, de bruit. Et c'est pas un hasard aussi qu'on trouve Moïse et Élie. Alors, il y a bien des raisons pour lesquelles Moïse et Élie sont présents pendant cet événement de la Transfiguration. Mais entre autres, Élie et Moïse ont su aussi se mettre à l'écart. Alors, quelquefois, ce n'était pas par leur choix. Hein. Vous vous rappelez la première fois quand Moïse c'est à l'écart qu'il a fait cette rencontre de Dieu avec le buisson ardent. Il avait dû fuir, etc. Il gardait les troupeaux de son beau-père Jéthro. Et il avait traversé le désert pour aller jusqu'à la montagne de Dieu. Élie, la même chose. Il est allé à l'écart parce qu'il avait peur pour sa vie. Parce que la reine Jézabel, hein, il avait trucidé tous les prophètes de Baal. Elle lui en voulait à mort, mais il était parti dans le désert et jusqu'à la montagne de Dieu. Il a traversé lui aussi le désert pour aller à la montagne de Dieu. Donc ce fait d'être à l'écart, c'est aussi le fait, je pense, de se retrouver soi-même et de prendre un peu de distance avec ce que tous les autres peuvent dire. Qu'est-ce que moi je pense, hein? C'est ce que Jésus dit d'une autre manière aussi à ses apôtres. Pour vous, qui suis-je ? Alors, pour les hommes, qui suis-je? Et puis après, pour vous. Alors là, le désert, c'est le lieu du « pour nous hein, ». D'être aussi en cohérence avec sa conscience, en cohérence avec ce que je suis. Bon, les autres peuvent dire de plein de choses, et ils en disent souvent des très intéressantes, et quelquefois des moins intéressantes. Mais c'est important de se retrouver. Donc, à l'écart, c'est aussi pour se retrouver soi. Et il est à l'écart sur une autre montagne. Ce n'est pas seulement pour se retrouver soi, c'est pour trouver Dieu. Et du coup, de prendre de la hauteur, là, c'est... Vous vous rappelez aussi le contexte de la Transfiguration dans l'Évangile. C'est juste après la première annonce de la Passion de Jésus. Et alors, d'abord, Saint-Pierre fait sa belle profession de foi. Après, il y a la première annonce de la Passion. Et alors là, Saint-Pierre, non, ça t'arrivera pas. Donc là, en montant sur la montagne, il est invité aussi à... Il réagissait de manière très humaine. C'était sympathique de la part de Pierre. Mais non, Jésus, j'ai pas envie qu'on te fasse souffrir et qu'on te fasse mourir. Donc c'était très bien en un sens. Mais c'était pas la vue de Dieu. Donc, sur une autre montagne, c'est quitter son point de vue proprement humain pour essayer d'entrer dans le point de vue de Dieu. Et je pense que c'est cette démarche d'abord que nous sommes appelés à vivre pendant ce temps de carême. Déjà se mettre à l'écart, se mettre un peu au calme pour savoir déjà moi où j'en suis. Et puis sur une hauteur pour voir pas simplement ce que moi j'en pense, mais d'abord ce que Dieu en pense. Voilà, alors ça c'était le premier point. Et ça nous rejoint dans notre démarche de carême de savoir prendre du temps à l'écart, un peu de repos peut-être en dehors de l'agitation, pour trouver Dieu, pas seulement soi-même, mais surtout Dieu. Deuxième point, donc il voit Jésus transfiguré. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Ils ont la grâce de contempler Dieu dans l'humanité de Jésus. Comme dit saint Jean aussi dans son évangile, Dieu personne ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est tourné vers le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Là aussi, c'est voir Dieu. Alors c'est le grand désir aussi de Moïse et Élie. Ils ne l'ont pas vu face à face, parce qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir, hein, c'est ce qui est dit à Moïse. Élie aussi s'est voilé le visage avec son manteau quand Dieu est passé, mais il savait que Dieu était là. Encore une fois, cet évangile de la transfiguration nous est donné pendant le carême, pendant un temps de combat spirituel ou pendant aussi quand on traverse des moments un peu compliqués. Tous les pères de l'Église nous disent qu'ils ont eu cette grâce parce qu'on est comme à un sommet de l'évangile. Jusque-là, tout se passe bien, Jésus fait des miracles, c'est la popularité, voilà, tout le monde court derrière lui, donc c'est bien. À partir de ce moment-là, il monte à Jérusalem, ça va moins bien se passer. Et du coup, ils ont cette grâce de la transfiguration pour continuer à suivre Jésus. Alors, ça ne sera pas infaillible, on voit bien avec Pierre, mais c'est un moment très important, parce qu'ayant eu cette expérience, ils peuvent écouter comme ils peuvent, en tout cas, mais quand même mieux écouter ce que Jésus dit, même si ça, c'est un peu plus difficile à entendre. Et pour nous, ça consiste peut-être à prendre conscience des moments lumineux dans notre vie. Il y a des moments de lumière, hein, ça fait partie des mystères lumineux, la transfiguration. Et souvent le fruit de ce mystère, c'est la contemplation. Mais on a besoin de s'arrêter pour voir aussi, pour voir comment Dieu était présent dans ma vie. Vous vous rappelez peut-être de Jacob dans la Genèse. Il y a ce combat avec Dieu et puis après il se dit « Dieu était là et je ne le savais pas ». Alors on a besoin pendant ce temps de carême d'être à l'écart, de prendre de la hauteur, mais pour voir comment Dieu est présent dans notre vie. Parce qu'il y a des moments lumineux où Dieu est présent dans notre vie, où on en fait l'expérience. Alors ça peut être assez rapide, c'est pas exactement la transfiguration comme pour les apôtres, mais c'est des moments lumineux. Saint Pierre en avait eu des moments lumineux quand il avait vu la pêche miraculeuse, quand il avait marché sur l'eau. Donc ça c'est important de garder ces moments lumineux dans notre vie. L'oraison du dimanche, de ce dimanche, du deuxième carême, nous demande la grâce, implore la grâce d'avoir le regard assez pur pour discerner la gloire de Dieu. Donc, une grâce pour voir les moments lumineux, parce que c'est pas forcément si spontané de voir les moments lumineux, de voir comme les moments où Dieu était proche, c'est à manifester sa présence. Et peut-être une manière particulière de voir les moments lumineux, c'est de vivre davantage de la prière d'action de grâce et de louange. Cette prière d'action de grâce et de louange est essentielle dans notre vie chrétienne pour comme graver dans notre mémoire spirituelle les moments lumineux. Oui, tout ce qui est une apparition lumineuse de Jésus dans notre vie. Il y a une parole du prophète Isaïe qui est assez belle. C'est « La gloire sera un dé, hein, comme pour nous protéger, et une tente pour ombrager le jour contre la chaleur, servir de refuge et d'abri contre l'orage et la pluie. » Et alors, de ce point de vue-là, la prière de louange, c'est comme un dé qui nous aide justement à traverser les moments compliqués, difficiles. Vous suivez toujours? Ça, c'était la deuxième chose. Donc, aller à l'écart, sur la hauteur. La deuxième chose, voir Jésus et voir ce qui est lumineux dans notre vie, la lumière de Jésus dans notre vie, et regarder tout à la lumière de Jésus dans notre vie. Troisième moment, c'est écouter la parole. Le passage est important, passer de la vision à l'écoute. On peut être dans la vision, quelquefois, on peut être assez... on reste sur son mirador, hein, on regarde, mais on reste un peu extérieur. On contemple, c'est très beau. Là, l'écoute, on est un peu plus impliqué. On ne peut pas rester à distance pour l'écoute. On ne peut pas rester comme indépendant en faisant un peu sa sauce à soi, en gardant une distance respectueuse pour ne pas être trop impliqué. L'écoute, ça comporte une part de foi, de confiance, de docilité, d'obéissance, un mot qui nous sonne douloureusement peut-être quelquefois, mais voilà. Ce troisième moment, c'est de passer de la vision à l'écoute, qui nous implique davantage, un peu comme Abraham dans la première lecture, qui écoute la parole et qui se met en route. Et là encore, Moïse et Élie sont des maîtres. Vous vous rappelez, Moïse, il fait cette expérience étonnante de Dieu sur la montagne. Et avec quoi il redescend? Avec les 10 paroles qui sont gravées sur les tables de pierre. Hein, la parole de Dieu, il redescend avec la parole de Dieu. Élie, c'est un peu la même chose. Il fait cette expérience de Dieu sur le mont Horeb aussi. Et il redescend avec une mission. Ben, tu vas aller consacrer tel roi et puis tu consacreras Élisée comme prophète pour te succéder. Voilà. Il y a eu la vision, mais après il y a le moment de l'écoute qui est très important. C'est le chemin Israël quelque part. Hein, quand ils font cette expérience sur le mont Tabor, il y a cette parole, une voix disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Alors du coup, ça nous donne une autre indication encore pour ce temps de carême, c'est d'écouter la parole de Dieu. Un peu comme la Sainte Vierge, ou un peu comme Saint Jacques nous y exhorte. C'est au chapitre 1 de Saint Jacques. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Alors, vous pouvez lire, il y a d'autres versets qui sont très bien aussi de Saint Jacques. Mais voilà, alors ce troisième moment, c'est d'écouter la parole. Et je pense que pour notre carême, nous avons besoin de... C'est un moment privilégié pour entendre la parole de Dieu. Vous vous rappelez de la Sainte Vierge, c'est au chapitre 2 de Saint Luc. C'est, je crois, juste après la naissance de Jésus, mais aussi juste après qu'ils aient perdu et retrouvé Jésus au temple. Marie, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Alors nous aussi, qu'on ressorte de notre temps de prière avec une parole, peut-être qui nous habite, comme Marie était habitée par la parole, qui nous habite pour avancer dans notre chemin. Voilà, donc je vous laisse simplement avec ça pour continuer votre chemin du carême. Vouloir, parce que si on attend que les temps nous soient donnés, ça peut quelquefois arriver, mais Il faut le vouloir pour se mettre à l'écart, pour prendre de la hauteur, ça demande un effort. Et puis après, de regarder, notamment par la louange, de voir ce que Dieu fait de beau dans votre vie, et puis après de mettre en pratique la parole de Dieu. Amen.